Deuxième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire consacrée à l'histoire de la cartographie. Aujourd'hui, le XVIIIe siècle et la carte des Cassini. Hier, nous avons évoqué avec le géographe Jean-Paul Amat les cartes de l'IGN dressant les lieux des batailles de la Grande Guerre. Demain, nous vous parlerons du découpage cartographique de l'Algérie coloniale et jeudi, nous remonterons aux cartes de l'Europe médiévale. Et aujourd'hui, me direz-vous, eh bien, nous allons partir pour la France de Louis XV, arpentée par ceux qui dressèrent la première carte topographique du royaume entier, je veux dire les Cassini. En l'occurrence, ces Cassini, eh bien, de chemin creux en promontoire, de belvédère au fond des vallées, ils étaient partis sur les routes pour pouvoir justement dresser cette carte et nous allons suivre Victor Massé de l'Épinay et Anne Fleury qui nous racontent cette formidable histoire, la formidable histoire de la carte de Cassini qui avait l'ambition de montrer une sorte de portrait cartographique du royaume à la veille de la Révolution. Les Cassini, carte sur table, un documentaire jusqu'à 10h ce matin avec des lecteurs de cartes grands connaisseurs de ces Cassini, Monique Pelletier, Suzanne Desbarba, Claude Motte, Bernard Bèze, Nicolas Verdier, Serge Botton et Julien Perret.
La bataille gagnée, c'est une épée avec la pointe en haut, et la bataille perdue, c'est une épée avec la pointe en bas. Voilà. Le champ de bataille, c'est les deux épées qui se croisent.
Les Cassini, cartes sur table. Victor Massé de l'Épinay, Anne Fleury.
Il y a la ville, le bourg, la paroisse, la chapelle, le château, le hameau, l'auberge, la cabane, la tuilerie, enfin, il y a tout un... La tour ruinée, le moulin à eau, la croix, le corps de garde, voilà. Justice, la route pavée, chemin, l'avenue d'arbres.
On voit les clochers, il y a donc une première symbolisation. Ça, c'est aussi Cassini qui a commencé à systématiser l'emploi de signes conventionnels sur la cartographie. Et c'est surtout, par rapport à toutes les cartes de France précédentes, une carte extrêmement détaillée, puisqu'on est à l'échelle de une ligne pour Saint-Oise, ce qui correspond aujourd'hui à du 86 400e. Donc un centimètre sur le papier représente 864 mètres dans la nature. Donc c'est une carte qu'on utilisera aujourd'hui pour faire du vélo. C'est pas encore aussi détaillé que les cartes IGN aux 25 000, mais c'est déjà par rapport à l'époque une révolution. D'ailleurs, vous imaginez 180 cartes, quand on les a assemblées au Carrousel du Louvre il y a quelques années pour l'an 2000, c'était 12 mètres par 12 la France. Donc c'est déjà une première, c'était une première mondiale.
Sentier, rivière et pont, ruisseau, canal, étang, limite de la province, limite de Cézanne. Vous voyez, bois aux forêts, bois de sapin, bruyère roulante, marais, prés, vignes, flots, etc. Donc il y a quand même une grande richesse.
Giovanni Domenico, Jacques, César, Jean-Dominique. Ils sont quatre, le père, le fils, le petit-fils et l'arrière-petit-fils. Quatre à avoir œuvré entre le grand siècle et l'Empire à l'élaboration d'une carte de France, la première à si grande échelle, complète, rigoureuse et détaillée. Ce sont ces histoires, celles de cette lignée de Cassini et celles de la conception et de la fabrication de leurs cartes que nous vous racontons aujourd'hui. Mais avant toute chose, levons un peu le nez et regardons les astres, car c'est là que tout commence.
Alors on va arriver à une des limites, la limite extérieure de l'observatoire. Je vous montrerai des plans tout à l'heure.
Suzanne Desbarba.
Alors là, vous avez une représentation du méridien de Paris. Vous voyez cette petite pièce métallique qui est là, avec un petit croisillon.
C'est la taille d'une pièce d'un euro.
À peu près, un euro. Et le méridien de Paris, qui a été déterminé le 21 juin 1667, lorsqu'il a été décidé d'installer tout à fait en dehors de Paris un observatoire, les astronomes ont installé une pierre quelque part, là, dans le jardin, et ils ont regardé la hauteur du soleil, puisque le passage dans le méridien, c'est le moment où le soleil ou n'importe quelle étoile est au plus haut, au-dessus de l'horizon.
Alors, en 1667, Cassini n'était pas encore là.
Non. Ça a été fait par les astronomes de l'Académie des sciences qui, elle, s'est réunie le 22 décembre 1666 pour la première fois.
C'est Colbert qui l'a créé,
oui.
N'est-ce pas?
Oui.
L'astronomie était vraiment la science principale dans cette deuxième moitié du XVIIe.
Ce qui a fait beaucoup, c'est la découverte, enfin l'utilisation par Galilée de lunettes. Et c'est là où il a eu une surprise, alors qu'on croyait que le monde était créé immuable. Voilà qu'il a constaté que de part et d'autre de Jupiter, il y avait quatre petits points jaunes et que ces petits points jaunes se déplaçaient d'un jour à l'autre. Immédiatement, tous ceux qui s'intéressaient à l'astronomie constatent que les éclipses de ces satellites, c'est-à-dire quand ils passent dans l'ombre de la planète, vont être de la même nature que les éclipses de Lune qu'on savait utiliser depuis l'Antiquité pour déterminer des longitudes. Alors avec les satellites, c'était beaucoup plus facile puisque c'était des petits points jaunes. Mais amusez-vous à regarder avec des jumelles, ça vaut la peine. Et quand Cassini a été nommé professeur d'astronomie à Bologne, il s'est attaqué au sujet et en 1668, il a envoyé à Ozu, qui était membre de l'Académie des sciences, ses prédictions des satellites de Jupiter pour 1668. Et les astronomes de l'Académie les ont immédiatement testés et ont constaté que c'était de très bonnes prédictions. Et ils ont suggéré à Colbert d'inviter ce Cassini qui était capable de faire des bonnes prédictions des éclipses des satellites de Jupiter. Alors il faut dire que Louis XIV avait essayé d'inviter quelques astronomes brillants. Il avait essayé d'inviter Newton, d'inviter Hevelius en Pologne, Leibniz, je crois aussi, enfin plusieurs astronomes. Et puis Cassini est le seul qui a accepté de venir pour 4 ans, avec l'autorisation du pape, à l'observatoire, enfin en France. Il était logé dans ce bâtiment et l'observatoire était en construction. Puisqu'il est arrivé en avril 1669. Vous voyez que toutes ces choses-là allaient vite à l'époque. On n'attendait pas d'avoir rempli des dossiers de 50 pages.
À l'époque, pour se repérer à la surface de la Terre,
Bernard Bèze,
le seul moyen qu'on avait, c'était d'observer les étoiles, qui sont réputées fixes sur la sphère des fixes, hein, par rapport à la Terre qui tourne sur elle-même. Et une des premières tâches qui a été confiée à l'Académie des sciences en 1666 par Colbert, ça a été d'aller sur le terrain pour relever précisément les coordonnées des ports de France sur la côte, ce qui a, au bout d'un certain nombre d'années d'observation, permis de rectifier le trait de côte de la France et de présenter à Louis XIV la fameuse carte de la Hire en 1683, avec un trait de côte en retrait par rapport au dessin précédent de Nicolas Sanson, qui était le géographe du roi Louis XIV, mais qui était un géographe de cabinet, c'est-à-dire qu'il n'allait pas sur le terrain, il ne faisait qu'interpréter le récit des navigateurs ou des historiens. Et en gros, il recopiait ce que Ptolémée avait fait dans son atlas des siècles auparavant. Et par contre, les académiciens des sciences ont dessiné une carte géométriquement exacte de ce contour, ce qui a fait dire à Louis XIV, ces chers messieurs de l'Académie, avec leurs grands travaux, m'ont coûté une partie de mon royaume et m'ont pris plus de territoire que tous mes ennemis réunis. Bon, c'est la célèbre phrase, mais il n'a pas été rancunier puisqu'il a continué à leur demander de travailler et notamment d'aller mesurer le méridien de Paris. Le méridien origine de la cartographie, enfin qui va devenir le méridien origine de la cartographie française et en particulier de la carte de Cassini.
Est-ce qu'on avance un peu ?
Oui, alors là vous avez quelque chose qui est un médaillon Arago qui balise le méridien de Paris de Montmartre à la cité universitaire.
À partir de ce méridien, on pensait qu'on allait...
Ah oui, voilà, Comment on pensait ? On est sûr qu'avec une référence méridienne, on peut déterminer des longitudes est et ouest.
Alors, voudrais qu'on revienne un peu sur Cassini.
Oui.
Cassini premier,
oui.
Giovanni Domenico,
oui.
Qui est donc invité par Colbert.
Invité par Colbert, oui.
Pourquoi ? Pour un savoir que les savants français n'ont pas, parce qu'il y a des astronomes...
Eh bien, il vient de faire de bonnes prédictions des éclipses, des satellites de Jupiter. Et le grand problème, vous voyez, quand l'observatoire de Greenwich a été créé en 1675, les directives du roi d'Angleterre, Charles II, étaient très strictes. Il fallait que les astronomes déterminent les longitudes, et en particulier les longitudes pour la navigation. Parce que quand vous êtes en mer, qu'est-ce que vous faites? Comment vous déterminez votre latitude? Avec la hauteur de l'étoile polaire dans l'hémisphère nord. Mais les longitudes, qu'est-ce que vous avez comme repère en mer? Vous ne pouvez pas vous tracer un méridien. Et c'est pour ça que les astronomes anglais, eux, ont développé énormément l'observation des astres jusqu'à ce que Harrison arrive à faire une horloge qui permettait de conserver l'heure sur les bateaux. Ça se comprend quand on habite une île, quand même, et qu'on veut conquérir le monde. Alors qu'en France, il n'y a pas eu de directives précises qui ont été données. Ce sont plutôt les astronomes français qui ont expliqué que pour pouvoir se déplacer, il fallait connaître la longitude et la latitude pour pouvoir faire des cartes. Alors ça a attiré l'oreille de Louis XIV et de Colbert, forcément. Forcément, Colbert voulait développer le commerce et Louis XIV voulait augmenter son royaume.
Alors, quand Cassini est arrivé, il a donc intégré l'Académie des sciences,
oui,
une communauté de scientifiques. Il était particulièrement lié avec certains d'entre eux. Je crois qu'il y avait un petit trio avec l'abbé Picard en particulier et avec Lahire aussi.
Alors, Picard, lui, a commencé à mesurer un arc de méridien, mais ça serait peut-être mieux que je vous montre l'ouvrage La mesure de la Terre de Picard qui date de 1671 et qui a de très belles illustrations. Allô, Robert ? D'accord. Alors là, vous avez la statue de Cassini. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici toutes les découvertes de Cassini. Alors, la lumière zodiacale, la méridienne de San Petronio, qui a été plus ou moins aussi à l'origine de son invitation, et puis la réfraction, la parallaxe du soleil, qu'est-ce que c'est ? La révolution des planètes, etc. Enfin, vous voyez.
Les satellites de Saturne.
Et puis là, quelque chose qui s'appelle un ovale de Cassini.
Alors, Cassini, on l'a bien vu, avec les yeux tournés vers le ciel la plupart du temps.
Oui.
Pour autant, vous nous avez dit, Suzanne de Barbac, que Colbert et Louis XIV l'ont fait venir.
Pour les longitudes, principalement.
Pour les longitudes et la cartographie.
Et la cartographie.
Alors, est-ce qu'il s'y est plié de bon cœur ? Est-ce qu'il s'est attelé à cette
apparemment,
à ce travail ?
Mais celui qui a travaillé le premier, c'est Picard. Picard a commencé, lui, à travailler à la mesure d'un arc de méridien en 1669. Alors, là, vous avez...
Alors, vous avez mis des gants.
Ben oui, parce que comme c'est des ouvrages anciens, suite des mémoires pour... Oh ben non, c'est pas celui-là. Ben,
description anatomique de 8 autruches.
Ben oui. Alors, où est Picard là-dedans ? Enfin, je rêve. Ah, mesure de la Terre. À Paris, etc., 1671. Alors, vous avez là une première illustration qui vous montre comment Picard et Lahire, sur les côtes de France, faisaient des observations de nuit pour mesurer des azimuts. Et Cassini, lui, était sur le méridien de Paris.
Cassini, le premier Cassini, Giovanni Domenico, va commencer à mesurer ce méridien par triangulation en enchaînant les triangles de Paris jusqu'à Bourges. Et vers le nord, c'est Lahire qui, lui, va aller de Paris à Béthune. Et puis Colbert va mourir. Donc ces grandes idées vont passer un peu en arrière-plan et les travaux vont être interrompus. Et puis, quelques années après, Cassini II, donc Jacques, va pouvoir continuer les travaux. Donc, il va terminer la méridienne vers le sud, de Bourges jusqu'à Perpignan, en enchaînant encore une fois les triangles. Et le fils de Lahire, également, a terminé vers le nord, de Béthune jusqu'à Dunkerque. Donc, finalement, on a une méridienne complète de Dunkerque à Perpignan, jusqu'au mont Canigou, qui va être d'ailleurs mesurée plusieurs fois, puisqu'il y a eu cette polémique entre Cassini et Newton à propos de la forme de la Terre.
Cassini 2.
Cassini 2, absolument. Pensait que la Terre avait une forme de citron, c'est-à-dire était allongée vers l'épaule, alors que Newton plaidait, d'après sa théorie de la gravitation universelle, pour une Terre mandarine hein, qui s'écrasait au pôle à cause de la rotation terrestre. Donc l'Académie des sciences va envoyer deux expéditions, une au niveau de l'équateur, c'est Bouguer et la Condamine, qui vont aller mesurer un arc de méridien à proximité de l'équateur, mais c'est une mission très aventureuse, dont ils reviendront que 8 ans plus tard, en passant par l'Amazone, enfin des tas d'aventures. Et il y a une mission en Laponie pour essayer de voir la longueur d'un degré de méridien, donc à l'équateur au pôle. Et l'expédition de Laponie qui va revenir en 1736 va conclure à l'aplatissement de la Terre au pôle, donc donner raison à Newton.
Alors, on trace des triangles, on mesure des angles et on déduit des longueurs. Très bien. Ça s'appelle la triangulation et c'est une méthode qui permet de faire de la géodésie, de géo, la Terre, et d'aio, divisé. Cassini II, le plus géodésien des quatre, consacrera à la triangulation de la France une bonne partie de sa vie. Mais comment ça marche techniquement ? Pour le savoir, rendons-nous à l'École nationale des sciences géographiques, où un spécialiste de la géodésie, Serge Botton, nous dégote entre deux GPS, un quart de cercle et une planchette.
L'idée, c'est de se dire que quand on fait une carte, il va falloir s'appuyer sur des points connus en coordonnées, hein, puisque votre carte doit représenter au mieux la surface topographique. Et donc pour ça, on va faire des points connus. Le départ, c'est de se dire qu'on va installer des bornes, et puis on va faire quelque chose d'assez simple dans le principe, hein, c'est d'un peu de trigonométrie, mais un peu sphérique quand même, parce que la Terre est quand même pas tout à fait plate. Et l'idée, c'est de mesurer entre tous ces points des angles et quelques distances, et à partir des formules de trigonométrie, alors ramenées sur la sphère, eh bien on va déterminer les coordonnées de ces différents points. L'astronomie de position qu'on utilisait à l'époque permettait de déterminer les coordonnées du premier point, du point fondamental, qui allait servir ensuite pour calculer en relatif les coordonnées des autres points. Il faut savoir que l'astronomie de position donc, a commencé avec les Cassini, et les dernières fois qu'on a utilisé de l'astronomie de position, c'était dans les années 90-1990.
Vous avez un peu plus loin un quart de cercle de Picard.
C'est avec un instrument comme celui-ci ou celui-là, c'est quart de cercle.
Oui.
Que Cassini et son équipe ont tracé tous les triangles de part et d'autre du méridien.
Oui, c'est ça, tous les triangles en question. Alors là, vous avez la base de la triangulation. C'est une base qui était entre Villejuif et Juvisy. Si on a choisi de Villejuif à Juvisy, c'est parce que la ligne, c'était une ligne droite, parallèle au méridien, suffisamment plate pour qu'on n'ait pas de problème. Alors, il y a d'autres planches. Et vous avez toute la triangulation de Picard. Ayant la longueur au sol que vous obtenez à partir de cette base que Picard va mesurer n fois avec des perches qui font 4 mètres de long et qu'on place bout à bout, ayant les deux angles là, on en déduit les dimensions du triangle, c'est-à-dire la longueur des deux autres côtés, puisque la somme des trois angles d'un triangle fait, je ne sais plus combien...
180 degrés.
180 degrés, oui, c'est ça. Et avec le triangle suivant qu'on va mesurer, par exemple celui-là, ça va donner la longueur de tous les côtés. Cette méthode de triangulation est celle qui a été utilisée et appliquée après la démonstration de Picard par tous les pays du monde. Alors, je vous ai sorti une carte. Ça, c'est la carte de Cassini 3. C'est la carte de 1744, nouvelle carte qui comprend les principaux triangles qui servent de fondement à la description géométrique de la France, levée par ordre du roi par messieurs Maraldi et Cassini de Turie de l'Académie royale des sciences.
Donc cette carte, elle est présentée à Louis XV en 1744 par Cassini III.
Oui.
Et c'est une petite carte qui montre toute la France.
Recouverte de triangles, complètement.
Oui. Et à partir de cette carte, Cassini III montre à Louis XV que ça y est, le travail préparatoire est terminé,
oui.
Et qu'on peut maintenant lever la carte, ou lever les cartes, oui, de la France.
Louis XV, à ce moment-là, dans les années 1740, était en guerre avec les États d'Autriche.
Claude Mott.
Et il avait demandé aux cartographes d'établir la cartographie du territoire sur lequel avait lieu, devait se dérouler cette bataille. Je crois que c'était en Belgique. Et Louis XV a gagné la bataille. Il a dit, si j'ai gagné la bataille, c'est parce que le terrain était tellement bien représenté que j'ai pu bien positionner mes troupes. Donc, Monsieur Cassini, Cassini III, je vous demande de lever le territoire de mon royaume, de la France entière, selon les mêmes règles de la triangulation géodésique que vous avez utilisée pour tracer cette carte partielle. Et donc, quand Cassini a lancé son opération, c'était avec le financement du roi Louis XV, et c'était une carte qui avait un objectif militaire. Mais pour Cassini, ça n'a pas été ça. Lui disait, il l'a écrit à plusieurs reprises dans plusieurs documents, moi, ce que je veux, c'est représenter ce qui est immuable sur le territoire de la France. Et ce qui est immuable, ben, c'est d'abord les points hauts. Et qu'est-ce que sont d'abord les points hauts? Ce sont les clochers. Et c'est pour ça que la carte de Cassini, c'est vraiment une carte de clocher. Mais il rajoute tout de suite, ce qui m'intéresse aussi, c'est d'apporter aux Français les moyens de mieux communiquer ensemble et de faire circuler les hommes et les marchandises. C'est-à-dire que sur la carte de Cassini, vous trouvez de très nombreuses précisions de tuileries, briqueteries, les moulins. Les moulins faisaient vivre une localité. Et les mines, les carrières. Vous voyez, donc il voulait. Cassini avait une vision beaucoup plus civile, si j'ose dire, que le roi.
Quand Cassini de Turie, Cassini III, présente à Louis XV sa carte des triangles et que la décision est prise assez rapidement de lever cette carte de France, qu'est-ce qu'il avait comme prévision de temps de lever?
Alors, il était parti pour les 180 feuilles à 18 feuilles par an, donc ça aurait duré 10 ans théoriquement. Malheureusement, comme tous les grands chantiers, que ce soit en cartographie ou en architecture, on sait que ça prend du retard, et finalement, ça va durer 50 ans. Ceci étant, il faut quand même rendre hommage à cette famille Cassini, parce qu'il y a quand même eu des difficultés historiques, hein. En 1756, quand on paraît la première feuille, celle de Paris et celle de Beauvais, il y a une guerre qui éclate, qui durera 7 ans. On savait pas que ça serait la guerre de 7 ans quand elle a éclaté, mais ça coupe du coup tous les crédits pour la carte de Cassini. Il faut que Cassini de Turie trouve des actionnaires pour monter une société. Alors heureusement, il avait évidemment des bonnes relations. Le roi lui a laissé tous les instruments gratuitement, et puis Madame de Pompadour a été parmi les premiers actionnaires, le comte de Noailles, enfin un certain nombre de ministres également.
Buffon.
Donc Buffon, Montalembert, des savants se sont associés en préfinançant, en fait c'est déjà des partenariats publics-privés dont on parle aujourd'hui, mais disons que ça leur permettait que cette œuvre aille jusqu'à son terme, et en priorité les actionnaires recevaient les cartes qui par ailleurs étaient également vendues 4 livres au public, puisque c'était la carte de l'Académie. À l'époque, ça ne s'appelait pas la carte de Cassini, c'est simplement l'histoire qui l'a baptisée sous ce nom-là.
« Il a donc fallu un peu plus de 50 ans pour lever la carte, c'est-à-dire pour passer de notre hexagone recouvert de triangles à ses 181 feuilles présentant les clochers, les fermes, les moulins, les briqueteries, etc., etc. Mais comment fait-on pour lever une carte ? Bien encore une fois, des triangles, mais plus petits. C'est une triangulation complémentaire, une triangulation de détail. Chaque chose représentée sur la carte par un pictogramme est positionnée en référence à deux autres. C'est le travail des topographes.
Techniquement, en fait, on allait mesurer des angles horizontaux. Donc, tous ces appareils, qui se sont perfectionnés au cours du temps, étaient des appareils qu'on maintenait horizontal grâce à un fil à plomb, puis ensuite à des bulles, et qui avaient un limbe, c'est un espèce de cercle en fer gravé sur des angles. Et donc, on faisait un pointé, on faisait une mesure sur ce pointé, on déplaçait sa lunette et on refaisait un pointé. Alors pour ce qui était de Cassini, lui, il avait deux lunettes, une lunette qui pointait sur le point origine, qui était l'origine de son limbe, et puis une deuxième lunette qui allait pointer sur l'autre point, très précisément, et il pouvait mesurer son angle. Alors cette triangulation, elle est difficile à faire, tout simplement parce qu'il faut, comme on va mesurer des angles, avoir une intervisibilité entre les points. Donc l'intervisibilité, eh bien, c'est de se dire qu'on choisit des points hauts et on met des mires sur ces points, donc qui permettent de les viser et de mesurer les angles entre les points.
Lorsque le terrain était trop accidenté, évidemment, ça posait des problèmes parce que il fallait, pour avoir les visées, c'était plus compliqué. Donc, parfois, les équipes ont été obligées de construire des espèces d'estrades en bois de façon à rééquilibrer. C'était tout un travail de menuiserie et c'était assez mal vu par les populations alentour parce que c'était des équipes qui étaient à l'origine envoyées par le roi. Donc, dès que des administrateurs royaux débarquaient, la population locale se disait aïe aïe aïe, on va augmenter nos impôts. Bon. Alors, c'est souvent vrai, mais pour la carte de Cassini, ça n'a pas été vrai du tout. Sauf que pour construire ces estrades, eh ben, il fallait prendre le bois là où il était. Donc, les équipes de géomètres arpenteurs n'étaient pas toujours très bien reçues par la population, loin de là.
Comment est-ce qu'on transforme ça en un dessin une fois qu'on a tous ces points ?
On faisait à l'époque de la planchette. Le principe de base, c'était de dire, j'ai une planchette. On se met à un endroit inconnu, d'accord ? On va viser le clocher, et en visant trois points connus, je vais pouvoir avoir une intersection qui va me donner ma position exacte sur ma carte. Je ne sais pas où je suis au départ. Donc je vais dire, je suis ici. Avec ma boussole, je vais orienter ma planchette, et donc je vais pouvoir lever un certain nombre de détails ensuite qui viendront parfaitement se positionner. Et puis si je m'installe une fois ici et que je lève par exemple cette maison, donc je vais avoir trois traits, deux traits si je vois les deux côtés de la maison, je viens ici, je lève ma maison, la même, et bien en fait je vais pouvoir avoir parfaitement l'emplacement de la maison.
Grâce à un triangle ?
Grâce à des triangles et des intersections de droites.
Et donc ça, c'est vraiment comme ça, avec à peu près ces mêmes instruments.
Oui,
avec une boussole, une planchette,
voilà.
et
une alidade.
Alors, Bernard Bèze, vous êtes un ancien responsable de la cartothèque de l'IGN. Nous sommes ici à l'IGN, à Saint-Mandé, au troisième sous-sol de cette cartothèque, devant un placard en métal sur lequel est écrit « Carte de Cassini, minute ». Est-ce que vous pouvez d'abord nous dire ce que c'est que des minutes ?
Alors, les minutes de la carte de Cassini sont en fait les relevés topographiques originaux qui ont été dessinés sur le terrain par les ingénieurs de Cassini entre 1749 pour la région parisienne et 1789 pour les dernières feuilles en Bretagne. Donc, c'est les 50 ans qui précèdent la Révolution française. Donc elles sont dans des pochettes numérotées, mais la numérotation est assez complexe parce qu'on commençait par la feuille de Paris numéro 1, évidemment, tout seigneur, tout honneur, la première feuille dédiée au roi avec Paris et le château de Versailles. Et puis on alternait la colonne située à droite du méridien de Paris et puis la colonne située à l'ouest et à l'est, etc. Donc c'est pas une numérotation de gauche à droite particulièrement évidente et de haut en bas. Donc là, on a la feuille de Bayonne, qui est la numéro 139. En fait, les minutes de terrain, pour des questions de facilité, de manipulation, sur une feuille de format grand aigle, hein, la feuille qui va être imprimée par la suite, 56 cm en nord-sud sur 90 cm en est-ouest, les minutes de terrain, elles, étaient 4 fois plus petites, c'est-à-dire qu'il y avait le quart nord-ouest, le quart nord-est, sud-est, sud-ouest, et parfois même c'était des huitièmes de feuilles, de façon à ce que ça soit plus facile à manipuler sur le terrain. C'est un dessin manuscrit à la plume pour tout ce qui est toponymie notamment, et ensuite à l'aquarelle pour donner la couleur verte au bois, la couleur bleue aux rivières, aux fleuves, etc. Même si avec le temps le bleu et le vert parfois peuvent un peu se confondre. Et puis vous voyez que Peyrerade, l'urbain est symbolisé par de l'aquarelle rouge. Hein, donc on a déjà une bonne perception de l'occupation du sol entre les zones boisées, les zones cultivées où on a le blanc du papier. Et puis il y a également les indications sur le relief avec une teinte un peu sépia qui à l'époque était une symbolisation un peu schématique du relief du terrain.
Ce qui est important pour cette carte, c'est qu'aussi c'est un inventaire de la toponymie de la France.
Monique Pelletier.
C'est-à-dire que ça n'existait pas avant. Ils consultaient les gens des lieux. Ils montaient souvent dans les clochers avec les curés, enfin les gens, un habitant, disait, ben là, ce qu'on voit, c'est tel village. Hein, voilà. Alors vous voyez, les ingénieurs, il y a des... Là, vous avez Dufour de Montlan. Il y avait à la fois des ingénieurs qui allaient une première fois sur les lieux, ils rapportaient un croquis avec leurs documents, c'est-à-dire la liste des toponymes, et puis la mesure d'angle, il refaisait une nouvelle carte à Paris, et après la carte repartait sur le terrain avec des vérificateurs. Et les vérificateurs, c'était un personnel extrêmement stable, et donc il faisait pas mal de corrections quand même.
Je vais faire celle de Marseille parce qu'elle est assez emblématique. Donc sur Marseille, on a un quart de minute aussi, c'est la numéro 124. Avec un très beau lever original de 1778 par Monsieur Trécourt, ingénieur géographe du roi, qui a donc dessiné cette feuille de Marseille où on part du niveau de la mer, puisque c'est là qu'aujourd'hui se trouve le marégraphe de Marseille qui donne le zéro des altitudes de France. Et c'est une commune qui monte assez haut, jusqu'à 700 mètres en altitude, quand on se rapproche des Calanques en direction de la Ciotat. Et on a donc l'exemple parfait de la trilogie entre le lever original avec les hachures pour figurer le relief, donc dans le sens de la pente. Ensuite, une copie qui a été faite et simplifiée où le relief est juste suggéré par cet ombrage sépia. Et c'est le quart de Marseille à vérifier en l'année 1778. Et ça va être vérifié par un autre ingénieur. Cet ingénieur va faire un troisième dessin qui est en quelque sorte le différentiel. Il y a donc en général trois documents qui vont être fournis au graveur de la plaque de cuivre, puisqu'à l'époque, au XVIIIe siècle, on imprimait les cartes en ce qu'on appelle le procédé taille douce, hein, qui consiste à graver en creux avec un burin ou avec des procédés à l'eau forte une plaque de cuivre, une image à l'envers qui va ensuite être imprimé par pression sur une feuille de papier parchemin, et donc le dessin va être à l'endroit.
Il y avait deux graveurs pour la carte. Il y avait le graveur du relief, des rivières, etc. Et puis après, il y avait les graveurs de lettres. C'est eux qui passaient les derniers sur le cuivre. Alors quelquefois, quand ils gravaient, ils pouvaient écraser ce qu'avaient fait les autres. Et on disait, il faut quand même qu'ils fassent attention au boulot des copains, parce que voilà. Mais ils ont beaucoup de mal à trouver des graveurs parce que c'est pas tellement payé. Et puis c'est quand même un travail assez ingrat. Les gens préfèrent graver des portraits ou des plans de ville que des cartes.
On peut encore aujourd'hui commander à l'IGN des cartes imprimées en taille douce directement à partir de ces cuivres. Des jeux complets et datant du XVIIIe siècle, il y en a deux.
Alors là, on est
dans le bureau du directeur du département.
L'un est à la bibliothèque du Congrès des États-Unis, à Washington. L'autre est à Paris. C'est l'exemplaire dit de Marie-Antoinette.
Voilà Paris. Donc Paris, c'était la feuille numéro 1. Les forêts autour de Paris sont très soignées parce qu'elles sont très fréquentées par le roi. Elle est très belle, cette carte de Paris, je trouve très très belle.
Les 181 feuilles ont été colorées à l'aquarelle, puis découpées en 21 rectangles qui ont été collés sur une toile de jute jaune clair. Ces cartes sont ensuite pliées en accordéon, comme nos cartes actuelles, puis rangées dans une trentaine de boîtes imitant des livres, boîtes qui garnissent la bibliothèque du bureau du directeur du département des cartes et plans de la BNF.
La feuille de Briançon, c'est la feuille 151. On est donc dans une zone de montagne. Les levées ont été faites en 1772-1777 et ça a été gravé en 1779. Donc on est loin quand même du départ de la carte qui était en 1747. Il faut dire que les zones de montagne, ils ne sont pas précipités dessus parce que c'était très embêtant.
Alors si on s'approche un peu...
On voit le canal en bleu, les routes en orange, et puis les vallées en quelque sorte qui sont désignées par des préaux. Voilà.
Marron.
Oui, marronasse.
La carte est précise pour les relations, comme le disait ce paysan qui disait « elle est très bonne à vol d'oiseau entre clochers, mais elle n'est pas bonne pour dire la réalité du déplacement. Elle est très bonne pour dire la distance entre les clochers. »
Nicolas Verdier.
C'est-à-dire les points de repère qui ont été pris pour construire la carte. Et ce qu'il y a entre ces points est dessiné à vue d'œil. Et on place un cours d'eau, une route, de façon très très approximative. Donc elle est beaucoup moins précise pour donner des fonds de vallée, puisque là la mesure était difficile à mettre en place. On n'y trouve que certaines routes. Si on faisait la même carte que la carte de Cassini aujourd'hui, on y mettrait les routes nationales et les autoroutes, et on s'arrêterait à ce détail-là. Alors en réalité, la question des routes et des chemins est une question qui pose problème au moment précis où on construit la carte. Pourquoi ? Parce que c'est un moment où on se met à régulariser les voies. C'est la politique de Trudaine, d'Horry, donc on va dire ce qu'on appellerait des grands voyers, pour faire simple, qui vont rectifier les voies et qui vont amener à ce que tous les historiens connaissent comme les descriptions d'Arthur Young, qui raconte ses voyages en France en parlant d'axes rectilignes qui vont d'une grande ville à une grande ville, expliquant que la France a vraiment des routes extraordinaires. Il rajoute perfidement que personne ne roule dessus. Bon. La difficulté des Cassini, de ce point de vue, a été de se dire, puisque les routes changent sans arrêt, mieux vaut ne pas les dessiner. Autrement dit, il y a eu un choix et une volonté de durer. Et c'est là le paradoxe même de cette carte de Cassini, qu'on met 70 ans à faire en faisant tout pour qu'elle dure, et qui finit par s'effondrer sous le propre poids de cette durée, parce que les exigences de précision ont changé.
Les exigences de précision ont peut-être changé. La carte des Cassini a peut-être été démodée, mais aujourd'hui on s'y intéresse encore. Et on lui attribue un grand intérêt scientifique et historique. Cela se passe à l'École des hautes études en sciences sociales, dans un laboratoire de démographie historique. Claude Motte.
J'ai dirigé pendant plusieurs années une collection publiée par le CNRS, qui s'appelle Paroisses et communes de France. Il s'agit dans cette collection de suivre le passage de la paroisse d'Ancien Régime à la commune post-révolutionnaire. Et sur les sources d'Ancien Régime, on rencontre beaucoup de toponymes de lieux qui ne sont pas devenus des communes. Donc la difficulté était à quelle commune d'aujourd'hui attribuer les 25 feux ou les 150 communions que l'on relevait sur la source. À l'époque, je travaillais en superposition, c'est-à-dire que j'avais les cartes de Cassini sur papier, et j'avais les cartes à côté au 100 millième de l'IGN des années 1960-70 qui, elles, portent les limites des communes. Donc je repérais sur l'IGN et sur la carte de Cassini le lieu que je cherchais, et grâce aux limites des communes qui étaient portées sur les cartes de l'IGN, je pouvais attribuer précisément ces 150 communions à telle commune d'aujourd'hui. Donc, quand j'ai appris dans les années 95-2000 que la technologie numérique permettait, un, de scanner, numériser les cartes anciennes, deux, de superposer des cartes qui sont à des échelles et des projections différentes, j'ai rêvé de cette chose-là. Je me suis dit, ça serait fantastique de pouvoir superposer les cartes actuelles aux cartes anciennes. Et voilà l'origine du projet. Ces 180 feuilles, les équipes de Cassini ont eu la riche idée de porter aux quatre coins les coordonnées en toise par rapport à la méridienne et à la perpendiculaire à la méridienne. Ce sont ces informations-là qui, immédiatement, permettent un géoréférencement. Ça permet ensuite de les assembler côte à côte et de reconstituer la totalité du territoire. Et ça permet de les mettre en superposition, en transparence, si vous voulez, sur les couches cartographiques contemporaines et donc les courses IGN.
Vous, Julien Perret, vous êtes géomaticien. Qu'est-ce que vous faites avec la carte de Cassini ?
Alors, on a une carte papier. Cette carte papier va être numérisée, d'accord ? Donc on va la passer dans un gros scanner. Hop, on va avoir un fichier, une image. Cette image-là, il va falloir la positionner dans l'espace géographique. Donc ça, c'est effectivement l'étape de géoréférencement. Alors, une fois qu'on a ça, là, déjà, c'est très bien parce que on a une donnée qui est superposable. Par contre, ça la rend pas interrogeable. On ne peut pas demander à une image, dis-moi où est Saint-Martin-des-Champs, admettons. Donc il va falloir justement rendre cette donnée interrogeable. Et donc pour faire ça, nous, on passe par des bases de données qui vont être soit des points, donc par exemple, ça peut être un nom de lieu, un point qui va représenter par exemple Saint-Martin-des-Champs. Ça va être un ensemble de données qui vont être linéaires, donc par exemple le tracé d'une route, et un ensemble de données surface X, ça peut être l'emprise d'une forêt ou l'emprise d'une ville comme Paris. Le processus de vectorisation, c'est littéralement ça, c'est-à-dire de passer d'une image à donc ce que nous on appelle des vecteurs, c'est-à-dire un ensemble d'objets qui vont être interrogeables, qui vont contenir des données attributaires, donc c'est-à-dire un ensemble de points, lignes, polygones, pour simplifier, et des informations sur ces points, lignes, polygones.
Est-ce que vous pouvez nous montrer un peu, sur un écran, ce que vous faites, par exemple, comment est-ce qu'on vectorise un cours d'eau ?
Donc là, on a un outil.
Où est-ce que vous êtes géographiquement pour...
Je suis quelque part sur Lyon, juste à côté de l'endroit où Lyon rencontre la Seine. Voilà, juste à côté de Montereau. C'est l'endroit où s'est arrêtée la vectorisation des surfaces de Lyon. Pour les cours d'eau, on va à la fois saisir l'axial, c'est-à-dire en gros une espèce de représentation linéaire du tracé global du cours d'eau. Et lorsque cette information est disponible, on va essayer de tracer le lit du cours d'eau, donc l'ensemble de son emprise spatiale. Donc là, on voit bien que, par exemple, ici, là, aux alentours de Missy et Villeneuve, La Chapelotte, etc., on a bien l'axial, donc cette courbe principale de Lyon qui est tracée. Et on voit bien que son emprise, donc que nous, on appelle surface X, donc le polygone qui va essayer de représenter l'emprise de ce cours d'eau, n'est pas terminé.
C'est-à-dire la largeur du fleuve.
C'est ça, la largeur du fleuve, l'emprise, son lit, quoi. Donc là, on va venir, on a des petits outils de dessin, donc vraiment comme si vous dessiniez à la main, et on va pouvoir tracer, dessiner l'emprise de l'objet qui manque.
Donc là, en quelques clics, vous avez colorié Lyon entre la chapelle aux veuves et le pont Saint-Bernard.
Exactement. Voilà. Et là, on voit le résultat. Et donc, on va pouvoir, voilà, vectoriser, donc soit corriger de l'information existante, soit rajouter une nouvelle information en s'appuyant sur le fond de carte. C'est pour ça qu'on appelle ça vectoriser, bon, parce que c'est de l'information vecteur.
Dans les endroits où il y a une très, très forte densité de peuplement et donc de toponymes, comme c'est le cas du Sud-Ouest, moi je suis du Sud-Ouest et je me suis chargée de la vectorisation des feuilles du Sud-Ouest, mais je m'arrache les cheveux. Les toponymes se chevauchent les uns sur les autres. Et à chaque toponyme doit correspondre un petit pictogramme, c'est-à-dire c'est une petite ferme, c'est un moulin, c'est ceci, c'est cela. Bon, eh bien la grande difficulté lorsque les toponymes sont à touche-touche comme ça, c'est de savoir qui appartient à qui. Ce nom-là, est-ce que c'est le nom de la ferme ou est-ce que c'est le nom du hameau ? Bon, alors il y a une hiérarchie dans la typographie des caractères qui permet un peu de s'y retrouver. Mais par exemple, un symbole qu'on n'a toujours pas bien expliqué, c'est le symbole de la justice. Est-ce que c'était l'endroit où on pendait, où on décapitait les gens, ou est-ce que c'était l'endroit où le juge de paix s'asseyait sous son chêne pour rendre la justice ? On n'en sait rien. Mais en tout cas, sur la carte de Cassini, et surtout dans la France du Nord, il y a cette représentation des justices. Vous pouvez avoir trépied, c'est-à-dire avec trois pieds, mais vous pouvez avoir deux pieds ou quatre pieds.
Et ça, est-ce que vous pouvez espérer qu'un jour, quelqu'un vous dise, tiens, là, il y avait un chêne, on sait par les archives de tel village qu'il y avait un arbre de justice, ou bien c'est du fantasme de croire ça?
C'est l'un des intérêts, justement, de faire intervenir le grand public, parce que là, on peut avoir des gens qui connaissent bien mieux le territoire. Nous, on ne peut pas connaître la France entière. Donc, pour l'instant, on a fait un petit prototype qui permet au grand public d'aller valider, corriger et enrichir les villes de Cassini. Les utilisateurs regardent une petite vidéo d'une minute où on leur dit, bon, ben voilà, ça marche comme ça, c'est ça qu'on attend de vous. Si ça vous intéresse, faites-le.
Description géométrique de la France par M. Cassini-Turie, maître des comptes, directeur de l'Observatoire royal, de l'Académie royale des sciences de Paris et de celle de Berlin.
À Paris,
et de la
rue Saint-Jacques,
royale de Londres,
1783.
De l'Institut et de l'Académie des sciences de Bologne, etc.
Sire, l'ouvrage que j'ai l'honneur de présenter à Votre Majesté est d'autant plus digne de paraître sous ses auspices qu'il est le fruit de votre protection et de celle de vos ancêtres. Je ne devais pas espérer de voir la fin d'une entreprise dont l'exécution devait durer un demi-siècle, et je regarde comme la récompense la plus haute de mes peines d'avoir vécu assez de temps pour offrir à Votre Majesté la carte du plus beau royaume de l'Europe, l'objet de la curiosité et de l'admiration de tous les étrangers, et même des souverains. J'ai éprouvé tous les obstacles que le préjugé, l'ignorance et l'intérêt opposent aux entreprises qui exigent le concours d'objets difficiles à réunir. Mais j'ai été soutenu par le désir de finir un ouvrage où ma gloire et l'avantage du public étaient intéressés, et de perpétuer la mémoire de mes ancêtres en laissant à la postérité un des plus beaux monuments de la géographie qu'ils ont contribué à perfectionner.
Je suis avec un profond respect, sire, de votre majesté, le très humble, très obéissant et très fidèle sujet et serviteur Cassini de Turie. Imaginez que Louis XIV est venu là. Enfin, voyez, vous marchez sur du Louis XIV partout.
En fait, Cassini III a eu plus de difficultés que ça.
Ah, ben ça, épouvantable. Les crédits ayant été coupés, il a tendu la main dans toute la noblesse qui évoluait autour de lui, dont je crois une des maîtresses de Louis XIV, de Louis XV, je ne sais plus laquelle, parce qu'ils en ont tous eu des tapés. Il a obtenu un financement assez conséquent. Il a pu faire continuer les opérations par les ingénieurs géographes. J'ai pas l'impression qu'il ait été un observateur extraordinaire.
Cassini III.
D'ailleurs, le portrait qu'on a de lui, si c'est bien lui, fait assez gentilhomme un peu. Il a un costume gris, perle, enfin. Mais c'est surtout qu'il a consacré 50 ans de sa vie, pratiquement, à cette carte. Il n'aura pas le temps de finir la carte parce qu'il va mourir en 84. Et à ce moment-là, son fils reçoit le titre de directeur général de l'Observatoire. Et Cassini IV me fait une impression extraordinaire. C'est un type qui m'a donné l'impression d'être d'une lucidité et d'avoir des idées, je dirais presque, en avance sur son temps.
C'est le dernier Cassini.
C'est le dernier Cassini.
Il a peu travaillé à la carte proprement dite.
Il l'a terminée. Il a terminé les planches qui manquaient. Et quand il a présenté cette carte au gouvernement français en 1790, le gouvernement a dit « Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une affaire privée, blablabla. Donc, nous la confisquons. » La carte a été donnée au dépôt de la guerre et, comme vous savez peut-être, c'est en 1940 que le dépôt de la guerre a été remplacé par l'Institut géographique national, c'est-à-dire quelque chose de civil et plus de militaire. C'est pourquoi l'IGN possède, lui, les cuivres de la carte des Cassini.
Alors si on poursuit l'histoire de cette carte de Cassini au moment où l'enquête va être lancée dans le détail de la France dans les années 1740 et ça durera jusque vers 1800-1810 pour finir, on a 60 à 70 ans de travail sur la carte. C'est vraiment un moment d'innovation technologique qui va être recopié dans l'Europe. On peut de ce point de vue parler d'un vrai siècle français, la cartographie. Et finalement, le plus surprenant, le plus déplaisant dans cette histoire, c'est que ce travail absolument énorme de 70 ans de labeur sur le terrain, c'est que ça mène à une carte qui va être rénovée avec la carte d'état-major. Le projet naît dès 1804-1805, même 1802 en fait. On se met à faire une carte d'état-major qu'on considère comme étant plus précise, plus juste, plus propre à rendre les réalités du terrain, puisque c'est une carte qui est clairement ici une carte militaire. Et donc on voit cette carte de Cassini à une durée d'usage extrêmement courte, due au fait que, en quelque sorte, elle est un petit peu dévalorisée par le fait que c'est une carte d'Ancien Régime.
Quand on assemble les cartes de Cassini, c'est quand même un résultat. On sent qu'il y a un esprit Cassini qui est commun à toutes ces feuilles, même s'il peut y avoir des différences liées au terrain, aux opérateurs. Mais...
Est-ce que cet esprit Cassini, vous sauriez le résumer ?
Moi, je pense qu'il y a un esprit d'aventure, puisqu'il faut aller sur le terrain, il faut se confronter à la réalité des choses, ce qui est moins confortable que d'être géographe de cabinet et de rester au chaud dans un atelier. Et puis, il y a le côté innovation permanente, puisqu'on essaye d'améliorer, on passe du quart de cercle au demi-cercle, au cercle complet, etc. Donc, on essaye de faire fabriquer les meilleurs outils aux artisans de l'époque. C'est aussi toute une partie de relations publiques pour obtenir les crédits, hein. C'est vital pour pouvoir continuer cette œuvre. Et ce qui est remarquable, c'est l'absolue continuité qu'il y a eu sur ces quatre générations consécutives. C'est encore une fois, c'est unique dans l'histoire des sciences mondiales.
Merci à Suzanne Desbarba, Monique Pelletier, Bernard Bèze, Serge Botton, Nicolas Verdier, Claude Motte et Julien Perret. Merci également à Jean-Marc Besse, Marie-Christine Vouloir et Maurizio Gribaudi. Lecture Romain de Bec de Lièvre. Prise de son Yves Lehors et François Rivalan. Mixage Delphine Baudet. Les Cassini cartes sur table, un documentaire de Victor Massé de Lépinay et Anne Fleury.
Et demain, nous continuons ce travail autour de la question de la cartographie, ce voyage dans les cartes en l'occurrence, en nous rendant en Algérie, dans l'Algérie coloniale, et en visitant l'exposition du Mucem Made in Algeria qui traite justement de cette question, comment a-t-on cartographié l'Algérie coloniale. Si vous voulez réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr.